crois qu'il y a un seul moment qui est là. Et cette table ronde aura pour intervenant M. François Tadelli, qui est directeur du Centre de recherche interdisciplinaire Paris, Mme Maria Candida Morales, qui est de l'Université, qui est docteur en éducation à l'Université Pontificale Catholica de São Paulo. Nous avons aussi M. Juan Rodriguez Chavez, qui est docteur d'éducation à l'Université nationale de San Marcos à Lima, Pérou. Enfin, M. Carlos Jesus Delgado, qui est docteur en philosophie aussi, recteur de l'Université Mundo Real Edgar Morin du Mexique. Et enfin, nos participants, nous avons M. Luis Carrizo, physiologiste, recteur académique du Centre latino-américain d'économie humaine. Voilà, donc je vais
maintenant donner la parole à M. Etienne Morin, qui va faire l'introduction de cette première table ronde. Chers amis, simplement quelques mots de pré-introduction à cette table ronde consacrée à l'éducation. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis, et je pense que nous devons être tous conscients que cette complexité résulte d'un ensemble de facteurs, de processus, de conditions de tout ordre, qui est d'abord, disons, du point de vue des enseignants, notamment dans le secondaire et dans le primaire, de la perte de leur ancien prestige, du fait qu'ils ne sont plus des dépositaires exclusifs du savoir, mais que les jeunes peuvent le puiser dans les médias et surtout dans l'Internet. Il y a le fait qu'il y a une culture juvénile nouvelle qui n'est plus dans le respect des règles, qui a ses propres Internet et la difficulté des rapports entre enseignants et enseignés. Tout ceci, d'ailleurs, dans des contextes très différents, les contextes où il y a des élèves qui sont proches et ceux qui marchent bien, une égalité de qualité des lycées, et aussi la situation marginalisée de ceux qu'on appelle les jeunes des banlieues, souvent issus de l'émigration, qui ont des difficultés à entrer dans notre système, notamment dans la légende nationale. D'ailleurs, je dois dire que des choses que je vais plus longtemps proposer, non pas de supprimer l'histoire de France, non pas de la raconter de scolaire avec ses hauts et ses bas, ses gloires, ses humiliations, ses carences et ses grandeurs, mais de montrer que l'histoire de la France depuis les Capétiens, depuis ses débuts, depuis pendant plusieurs siècles, c'est une histoire multiculturelle, c'est-à-dire qui est faite de peuples extrêmement différents par leur langue et leur culture, qui au cours des siècles ont fini par, tout en gardant leur identité devenue provinciale, former la France. La France s'est formée avec des Alsaciens, des Lorrains, des Nordiques, des Flamands, des Bretons, etc., etc., les Corses. Et tout ceci, comme vous dites, ça fait de l'été français, et que ce processus, en cours, s'est continué, non pas par l'annexion de régions nouvelles, mais par l'arrivée des migrants à partir du XXe siècle, et que la France a un système d'intégration qui a marché au bout de deux générations, parce qu'il y a toujours eu des phénomènes de refus, mais finalement. Donc, si vous voulez, il y a ce caractère de l'histoire de France qu'il faut enseigner surtout à ceux qui sont issus d'autres régions de savoir. Mais c'est un point. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'ensemble des problèmes qui sont sociaux, politiques, pédagogiques, etc., qui ont été traités par de très bons auteurs, et récemment il y a eu ce livre important de Jean-Yves Blanquer, que tous ces problèmes-là, en général, ont porté sur la multiplicité des aspects de la crise éducative, femmes, parce que je crois qu'on doit introduire des thèmes, des thèmes savoir par exemple, et qu'on doit introduire des thèmes importants pour mieux enseigner à vivre. On oublie que la mission de l'enseignement n'est pas trop des spécialistes, des techniciens, mais de trouver des esprits capables de vivre dans ce monde, d'essayer de se réaliser et de vivre en communauté, mais d'enseigner à vivre, à raconter la vie. Donc c'est cet aspect sur lequel moi je me suis concentré, mais je suis conscient des autres aspects, et c'est pour ça que je pense que cette table ronde sera question de tous ces aspects, et que ce sera une opportunité justement pour pouvoir raconter et peut-être même proposer une vision réformée, réformatrice de nos systèmes d'éducation. Voilà, merci. Et je laisse maintenant la présidence à mon ami pour faire cette annonce.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je vais faire une introduction très brève, puisque on est un peu de retard. Nous devons finir vers 13h, 13h15. Nous avons 6 intervenants. Et on va aller plus concis et en même temps, si possible, impératif avec vous, qui aura, j'espère, encore un temps pour le débat. Et je voudrais, en même temps que Pierre Morin, saluer la présence de Candido Mendes, professeur Candido Mendes, qui vient de nous rejoindre, grand ami des Pierre Morin, grand ami de l'UNESCO aussi, qui a fait énormément pour la diffusion de la pensée des Pierre Morin au Brésil et en Amérique latine en général. Et c'est un plaisir de l'avoir. Nous sommes dans la maison qui parle de patrimoine commun de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire évidemment un trésor commun de l'humanité. Voilà la personne des Pierre Morin, trésor vivant, et très heureux d'avoir d'autres trésors vivants comme Candido Mendes. Et finalement, vous tous, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous alimenter à cette pensée, et vous avez envie non seulement d'être des penseurs, mais aussi des acteurs. Je pense qu'on en parlera, car ce qui est important, c'est de voir en quoi les idées que nous avons brassées au cours de ces deux jours sont utiles pour l'action, sont utiles pour un monde meilleur, si cette expression peut encore rencontrer une réalité demain. En tout cas, c'est bien la tentative des femmes et des hommes de bonne volonté que vous êtes tous. Je dirais simplement deux mots sur la pensée de Pierre Morin et l'éducation. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus, notamment d'ailleurs dans l'Herbe, il y a quelques références ce matin. Donc, pour tout approfondissement, je vous y renvoie. Je voudrais simplement souligner trois choses. La première, c'est que la pensée sur l'éducation des Pierre Morin est à la fois un point d'arrivée et un point de départ. C'est un point d'arrivée parce que sa pensée explicite sur l'éducation intervient finalement assez tard dans son œuvre et un petit peu comme une résultante de tout ce qu'il a écrit auparavant. On en a déjà parlé ce matin, c'est notamment la fin des années 90. Décide de mettre les mains dans le capot, si je puis dire, en s'intéressant à la question des programmes scolaires, à la question de ce qui s'enseigne concrètement. Et ce processus donnera, entre autres choses, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur que vous connaissez. Mais c'est une résultante. C'est une résultante, d'abord, de son épistémologie. Finalement, toute la réflexion sur la complexité amène à sa réflexion sur l'éducation. Et ce que dit d'abord Edgar Morin sur cette question, c'est que c'est une recherche sur la façon de faire passer l'idée de complexité chez l'enfant, y compris le petit enfant. Pensons par exemple à ce qui se dit sur la philosophie à l'école maternelle, sur la nécessité de jouer sur la capacité d'étonnement et d'émerveillement de l'enfant pour justement appréhender le réel sans préjugés et appréhender autrui aussi avec empathie. Ce sont ces questions-là qui sont derrière l'épistémologie de la complexité appliquée à l'éducation. Et Edgar Morin a des phrases fétiches, il en a une qu'il utilise souvent sur les livres de Jean-Jacques Rousseau, dont je veux lui apprendre à vivre, eh bien, cette expression « apprendre à vivre », c'est à la fois une impossibilité, personne ne peut apprendre à personne à vivre, et pourtant, c'est une nécessité, parce que, justement, l'éducation doit chercher à montrer la complexité de la vie, pour que chaque enfant puisse faire son chemin, qui doit être un chemin particulier. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que c'est aussi la résultante d'une expérience. Et quand on lit l'œuvre de Pierre Morin, il est intéressant d'abord de noter la dimension toujours autobiographique de son œuvre, de façon cohérente il relie toujours sa théorie à sa propre vie pour bien montrer, pour bien démontrer et illustrer ce qu'il dit en permanence, c'est-à-dire que la pensée ne doit pas être purement abstraite, mais articulée aux enjeux vitaux. Et cette vie des Pierre Morin, nous savons tous, c'est une enfance, les années 20 et 30, caractérisée par un certain type d'école. C'est aussi l'école buissonnière de Pierre Morin, ça, par exemple sa découverte du cinéma. Donc l'importance qu'il donne à la fois à la structuration que lui a donné l'école de la République, par exemple, comme il vient d'ailleurs de le redire à l'instant, sa capacité à devenir un citoyen français, à comprendre les enjeux de l'histoire de son pays, et en même temps l'école buissonnière que lui a offert bien des expériences, à commencer par celle de la littérature et du cinéma. Il était déjà pluridisciplinaire sans le savoir, transdisciplinaire, c'est-à-dire, et je crois que c'est un aspect important. Et puis la troisième chose, c'est que Pierre Morin, oui, à un moment donné, a mis les mains dans le chapeau, il a écrit sur l'éducation, il a désormais plusieurs ouvrages, sans doute beaucoup d'entre vous connaissez. Ces ouvrages sont aujourd'hui importants pour déduire des actions concrètes pour l'école, non seulement au travers de la question de la transdisciplinarité, de la capacité pour l'élève à appréhender le réel au travers de plusieurs disciplines, mais aussi au titre d'une éthique de l'éducation, qui elle-même renvoie à une éducation tout au long de la vie. Quand on parle d'éducation aujourd'hui, ce n'est évidemment pas seulement celle de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi celle de l'adulte, a fortiori au 21e siècle. Tout ceci, je pense, est au socle de tout ce que vous allez entendre ce matin. Je voudrais remercier les intervenants pour leur engagement, ils sont venus parfois de loin, souvent d'Amérique latine, mais pas seulement, pour nous parler de la pensée des Pierre Morin et des grands enjeux de l'éducation au XXIe siècle. Et donc, sans plus attendre, je donne la parole à François Taddeï, qui justement réfléchit à ce lien entre la recherche et l'éducation. Merci beaucoup.
Peut-être s'ils se parlent, ils vont pouvoir reconstruire une partie de cette complexité et arriver ensemble. ensemble à avancer en partageant les impressions qu'ils ont eues les uns et les autres. Et donc cette capacité à se relier à la connaissance et à se relier aux autres par ce partage des connaissances, ça fait partie des choses, je pense, qui sont assez fondamentalement héritées de la pensée des Indiens, mais c'est assez drôle parce que c'est des gens indiens, évidemment, millénaires. Et donc on voit bien que l'ensemble de la planète, à un moment donné ou à un autre, était amené à penser cette complexité. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a d'autres regards sur la complexité. Et en même temps, pour illustrer ce que disait Biard sur notre destin terrien, je ne sais pas si vous connaissez la... Il y a un très beau texte de Carl Sagan. Carl Sagan, c'était un astrophysicien avec la NASA. Il les a convaincus d'envoyer un satellite qui est sorti aujourd'hui du système solaire. Et il a demandé à ce qu'au moment où ce satellite allait sortir du système solaire et perdre le contact avec nous, il leur a demandé que le satellite se retourne, fasse une dernière photo de la Terre et l'envoie. Donc c'est la dernière information que nous avons reçue de ce satellite. Et la Terre, vue de... des confins du système solaire, ce n'est que le pale blue dot, un petit point bleu qui ne représentait même pas un pixel à l'échelle où ça pouvait être enregistré. Et donc, on a tous l'impression qu'on est très important, enfin, plus ou moins, on n'est pas grand-chose. Mais en même temps, on est tous ces poussières d'étoiles, on reprend les mots que Bien utilisait tout à l'heure, et on est tous les héritiers de ça. Il y a aujourd'hui, par exemple, un mouvement qui s'appelle The Big History, donc la grande histoire, qui est une histoire qui cherche à démarrer avec le Big Bang, avec la naissance de l'univers, et qui retrace les grandes étapes de notre histoire commune, qui inclut évidemment la naissance de notre système solaire, puis la naissance de notre planète, la naissance de la vie sur notre planète, son évolution, l'apparition de l'histoire que les gars synthétisaient le Big Bang tout à l'heure et que vous connaissez. Et ça permet à tous de savoir que nous avons fondamentalement une histoire commune. Et qu'on peut se relier à cette histoire commune, et en même temps que nous sommes tous singuliers, parce que quand on fait un peu d'évolution de génétique ou de biologie, à la fin on se rend compte à quel point nous sommes différents, et en même temps à quel point nous sommes semblables. Et donc, cette capacité à comprendre la complexité de nos similitudes et de nos différences, je pense qu'elles sont assez essentielles. Et donc, on peut assez facilement, en fait, transmettre cette grande histoire et les limites de nos connaissances, et à partir de là, on peut s'interroger sur où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va demain, et commencer à se donner un avenir commun. Hein, nous avons exactement, quand on même, la salle à côté, une discussion sur le SDG4. SDG, c'est Sustainable Development Goals, ce sont donc les objectifs de développement durable que les Nations Unies se sont donnés comme priorité planétaire pour vivre ensemble sur cette planète. Et donc, on y retrouve bien sûr les problèmes climatiques, les problèmes de biodiversité, les problèmes de pauvreté, les problèmes de santé, les problèmes de genre, mais aussi, bien sûr, le problème de l'éducation. Donc le SDG 4, le SDG sur l'éducation, est évidemment une priorité planétaire. Et donc, comment est-ce que, tout le temps qu'on est, on peut contribuer à ça? Et comment est-ce qu'on peut inviter les plus jeunes à se mobiliser là-dessus? Et ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes sont fondamentalement intéressés par les enjeux planétaires, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vivront sur cette planète. La probabilité du change de planète est relativement faible. Et donc, il faut évidemment prendre soin de notre mère patrie commune, qui est cette terre patrie. Donc on a besoin de réfléchir à ça, et les jeunes, fondamentalement, veulent ça. Et à partir de là, on peut les motiver, parce qu'ils vont s'engager, ils vont vouloir apprendre collectivement, et à partir de ces grands enjeux planétaires, en fait, ils ont tous une déclinaison locale. Il y a évidemment dans nos environnements personnels, dans nos contextes personnels, on peut comprendre les problèmes universels et on peut comprendre les problèmes singuliers qui sont ceux de chacun d'entre nous, et on peut voir la relation qu'il peut y avoir entre ces deux niveaux-là. Et si, de même qu'on peut découvrir un éléphant, une bouteille d'eau ou toutes les formes de complexité qu'il y a autour de nous de manière collective en partageant, et bien les jeunes aujourd'hui se rendent bien compte qu'on peut partager la connaissance qu'on a via les outils numériques à des échelles qui sont sans précédent. Et donc il y a une prise de conscience progressive dans cette génération du fait qu'ils peuvent accéder à la connaissance, mais ils peuvent aussi agir. Hein, je citerai une autre légende, cette fois-ci amérindienne, qui est la légende du colibri. Hein, vous connaissez peut-être cette légende où il y a un incendie dans la forêt et tous les gros animaux s'enfuient et seul le colibri va vers l'incendie. Et le colibri a une petite goutte d'eau dans son bec. Et un des gros animaux lui dit, mais où vas-tu, colibri? Il dit, je vais déposer ma goutte d'eau sur le feu. Et l'autre lui dit, mais est-ce que tu penses que tu vas réussir à éteindre un incendie? Il dit, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais faire ma part de travail. Et je pense qu'on a besoin de transmettre cette capacité aux jeunes générations, leur capacité à se rendre compte qu'on peut agir au fond des complexes. On ne va pas forcément éteindre l'incendie à soi seul, mais on peut faire sa part du travail et on peut s'adosser aux meilleures pratiques sur comment est-ce qu'on peut transporter une goutte d'eau, comment est-ce qu'on peut agir. Parce qu'effectivement, si cette goutte d'eau, on sait la placer au moment où il n'y a plus d'étincelle, on peut éteindre l'étincelle et éviter l'allumette et éviter l'incendie. Et donc cette capacité à identifier le pouvoir d'agir que chacun d'entre nous a, et à fortiori si collectivement on crée des escadrons de colibris, on peut éteindre même probablement les plus gros incendies en s'y mettant tous ensemble. Et tant bien sûr s'appuyant sur les connaissances que l'on peut avoir les uns et les autres. Et donc ce SDG4, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage auprès des étudiants de l'AMIESEC, la Fondation internationale d'étudiants. 58% des étudiants s'intéressent aux objectifs de développement durable, et une majorité d'entre eux s'intéressent en particulier aux SDG4, parce qu'ils savent bien que l'éducation, comme également on l'a compris, est le facteur limitant pour la compréhension de la complexité du monde, mais aussi pour simplement la survie tous ensemble sur cette planète. Et donc comment est-ce qu'on peut arriver à passer d'une éducation qui est assez fondamentalement close entre quatre murs, hein, c'est le cas de l'être humain, à une éducation à la compréhension de la complexité du monde et la compréhension de la capacité d'agir sur le monde. Et comment est-ce qu'on peut inviter les jeunes générations à écouter leur point de vue, Jérôme pourrait le dire, je suis sûr qu'il aura l'occasion, on peut donner la parole à ces jeunes générations et leur demander comment est-ce qu'elles voudraient apprendre. On peut en fait redesigner l'école avec les jeunes générations, on peut redesigner l'université avec les étudiants qui y sont, et en fait on peut partir de leurs envies et de leurs motivations pour s'engager et contribuer à comprendre et à agir sur le monde. Et je pense qu'on a absolument besoin de, pour le coup, d'inventer des process qui, en fait, ont été en partie pensés par Humboldt il y a 200 ans. Hein, Humboldt, c'est le père des universités modernes, mais sa vision assez utopique n'a été réalisée que dans beaucoup d'endroits. Mais ce qu'il disait, c'est qu'on doit avoir, dans l'université ou dans l'école, la liberté d'apprendre, la liberté d'enseigner, la liberté de faire de la recherche, et on doit pouvoir trouver des mentors bienveillants. Ils ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez apprendre et faire, mais ils sont là pour vous accompagner dans votre démarche et dans votre projet personnel et collectif. Et donc cette capacité à accompagner la transformation des individus et des collectifs, c'est ça fondamentalement le rôle de l'éducation. Mais pour bien mener cette mission, je pense que nous avons tout intérêt à inviter cette jeune génération qui, comme je disais, est née à l'ère numérique et à d'autres pratiques juvéniles, pour reprendre le mot de tout à l'heure. On a besoin de les accompagner dans une co-définition de ce que peut vouloir dire apprendre, de ce que peut vouloir dire la connaissance et la reconnaissance. Quelle connaissance, comment est-ce qu'on acquiert la connaissance aujourd'hui, comment est-ce qu'on la transmet, comment est-ce qu'on la construit, comment est-ce qu'on la co-construit, comment est-ce qu'on la co-élabore. Donc je pense qu'on a vraiment besoin d'arriver à faire ce genre de choses. Tu citais les liens avec la recherche. La ministre de l'éducation nationale française m'a confié une mission de penser la R&D de l'éducation, en fait la R&D de l'apprendre tout au long de la vie, la R&D de la société apprenante. Peut-être que dans un contexte comme celui-ci, d'autres que moi pourraient essayer de penser la R&D de la planète apprenante une recherche et développement qui nous aiderait à prendre conscience du connaître toi-même, qu'on connaît depuis les Grecs, mais du connaître toi-même individuel et collectif, du connaître toi-même de la personne et de la planète, et de comment est-ce qu'on peut construire ça. Je pense qu'on a besoin de le faire tous ensemble, on a besoin d'impliquer autant que possible les jeunes générations dans ce débat. Merci.
Au ministère de l'Éducation, ainsi qu'à l'organisation de l'État américain. Vous avez la chance. Después de presidir y participar en varias conferencias internacionales en Brasil sobre el pensamiento con la relación de criminalidad, todas ellas en otros países también, todas muy importantes para desarrollar la investigación, para trabajar, compartir los avances, clarear algunas dudas sobre las cuestiones que se han encontrado. Yo pienso que en este momento es fundamental nuestro compromiso con la historia. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar las prácticas pedagógicas de las escuelas, de la educación básica y fundamental, porque estamos trabajando mucho más tiempo en cursos de superior, en grado, posgrado, pero dificilmente conseguimos lograr entrar en las escuelas. Entonces, es muy importante iniciar esta reforma de educación a partir de los últimos, como hablaba también el señor Gustavo, porque aprender a pensar y a compreender el real es la condição fundamental para a supervivência de qualquer humanidade. Então, já não podemos esperar que os niños lleguen em cursos de superior, de integrado e pós-grado. Temos que começar, sim, a partir da educação básica, porque exatamente as escolas, como estão atualmente, não nos servem. Estão continuando com seu pensamento muito fragmentado, com saberes fragmentados, e nossos problemas, como falamos várias vezes, simples, são complexos e transdisciplinares. Por lo tanto, eu afirmo e reafirmo aqui meu compromisso, nesse importante evento, com a escola. Em sentido de apontar caminhos, de concretar novas estratégias pedagógicas, e especialmente com a formação docente, assumindo. Assumindo a transversalidade dos sete saberes e a necessidade pela reforma do pensamento, em sentido de cambiar a prática cotidiana de los docentes em seus vários aspectos. Então, necessitamos. Quadrado de cada um de cada um de cada um. isto depende do conhecimento que se tenha a respeito da temática, da competência docente e do compromisso com o plano desejado. Portanto, é possível sim, a partir de aí, é necessário, então, ter uma atitude transdisciplinar diante do conhecimento, iluminada por uma epistemologia da competência, em el sentido de transformar os ambientes de enseñanza e aprendizagem e a qualidade do conhecimento construído. Se necessitamos de docente criativo, competente e bem formado em sua área de conhecimento, com boa formação pedagógica, com claridade epistemológica, para que seja capaz de trabalhar disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinarmente, sempre tentando ir mais allá do limitador fronteiriço, em la tentativa de compreender o fenômeno educativo em sua complexidade, percebendo e religando os diferentes níveis de realidade e percepção presentes em nossa casa.
Donc, on va dire directement dans l'école, sans cet engagement de la part du corps enseignant, il serait extrêmement difficile de changer de paradigme, bien évidemment. Mais plusieurs voies se présentent devant nous pour y parvenir. Il faudrait avoir une attitude éclairée à travers une épistémologie inclusive. Et il faudrait également avoir des enseignants, un corps enseignant bien formé, ouvert, pourvu d'une clarté épistémologique affirmée. Et capable de travailler aussi bien de manière transdisciplinaire que interdisciplinaire et pluridisciplinaire, pour tenter d'aller toujours au-delà des frontières du savoir en identifiant les différentes perceptions dans le cadre de l'enseignement.
Pour donc,
donc
c'est podemos empezar por vários caminhos, pero yo empecé tengo que elegir. Entre currículo, entre a formação docente, entre a questão da gestão a partir da complexidade, qualquer desses caminhos, eu optaria nesse primeiro momento, especialmente na situação do Brasil, por a capacitação dos maestros, por a formação docente. Primeiramente, temos que pensar inicialmente na escola como um sistema complexo. E isso implica necessariamente câmbio paradigmático a partir da reforma do pensamento e do conhecimento para chegar à reforma dos sistemas educativos. Câmbio paradigmático em os aspectos ontológicos, epistemológicos e metodológicos, em sentido de superar uma das grandes debilidades de nosso sistema de ensinança, que é a falta de claridade epistemológica por parte dos maestros, especialmente em que se refere ao processo de construção do conhecimento e ao aprendizagem. Sem estas bases epistemológicas claras, suficientemente claras, se quer difícil compreender a dinâmica do mundo e da vida, assim como promover a qualidade da educação, ou então perceber a cegueira do conhecimento, seus erros e ilusões, a importância do conhecimento pertinente, é o papel da corporeidade humana em os processos de construção do conhecimento, evitando-se assim a atrofia do pensamento. A escola como está hoje não pode continuar oferecendo estas práticas pedagógicas como estão.
Mais par où commencer, me demanderiez-vous probablement. Eh bien, il y a plusieurs voies. On peut s'attaquer au programme scolaire, aussi à la formation des enseignants. Et au Brésil, en tout cas, je pense que cela passe surtout par la formation des enseignants, à savoir que ces enseignants entendent, comprennent l'école comme un tout complexe pour réussir à provoquer ce changement de paradigme, aussi bien du point de vue ontologique que méthodologique et épistémologique, pour surmonter cette réalité plutôt réductrice à laquelle nous faisons face. Parce que, bien évidemment, c'est le manque de clarté épistémologique qui ne permet pas ce changement de paradigme. Sans ces bases épistémologiques claires, il est difficile de comprendre la dynamique de l'élève, le rôle de l'aspect humain dans tous les processus d'enseignement. Et c'est malheureusement les problèmes que présente l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Institutionnellement, la scuola già non può continuare a offrire pratiche pedagogiche cristallizzate in tempo e in spazio, repassando contenuti mediante aulas tradizionali e magistrali, reproduttori di testi canonici e verità inquestionabili. Que se perpetua ao largo do tempo, caracterizadoras, pois foi, de uma realidade, para mim, extremamente preocupante. Deve ser como espaço de intercâmbio de saberes e de experiências, nas escolas devem ser concebidas como estruturas, como centros de aprendizagem e de formação, a partir de uma outra estrutura organizativa e espacial, já que seu objetivo seria a aprendizagem personalizada e comunitária mediante processos de cooperação. Outro ponto importante é concebida o currículo como uma rede completa de interações, de auto-ego, regulações, emergências e transcendências, como fruto de sistema operacional aberto que se assemelha muito mais a fractal, que não é algo fácil para o professorado em geral, acostumado a listados de conteúdos, disciplinas e comunicados, dinâmicas lineares, de causa e efeito, enfim, com sistemas cerrados e impostos de forma autoritária e vertical. Para que a reforma do pensamento incida diretamente em la reforma do conhecimento e em os processos educativos, é necessário uma outra dinâmica curricular, que eu chamaria uma dinâmica curricular em movimento, ou então, como o nosso querido amigo e professor Paulo Freire falava, um currículo em ação, um currículo integrado, globalizado, flexível, contextualizado, dialogado, aberto às emergências e às incertidumbres, ao conhecimento inter- e transdisciplinar, capaz de integrar tanto os conhecimentos científicos e humanísticos e de promover o diálogo entre local e global, entre o ser, estar, viver e conviver. Gerador, portanto, gerador de pensamento ecologizado e ecologizado.
L'école comme institution ne peut plus proposer des cours magistraux canoniques, conservés ou perpétués, caractéristiques d'une réalité assez préoccupante. Les écoles doivent être conçues comme des centres d'apprentissage avec une autre structure, aussi bien temporelle que spatiale. Et concernant les programmes, ils doivent être entendus comme un réseau complexe, le fruit d'un système opérationnel ouvert. Bien évidemment, cette tâche n'est pas facile pour un corps enseignant habitué au système fermé. Et pour que la réforme de la pensée influe directement sur ce nouveau paradigme de l'enseignement, il faut que les programmes soient des programmes en action, globalisés, compris depuis le dialogue, ouvert à la connaissance, aussi bien transdisciplinaire qu'interdisciplinaire. Bien évidemment, sans perdre de vue les savoirs à acquérir par les apprenants, mais aussi en faisant la promotion de nos valeurs les plus chères.
Si, para synthétiser, finalizar, creio que necessitamos todavia sintetizar algumas considerações sobre a questão da formação docente, para que esses processos possam ser imediatamente realizados. Considerando que a insuficiência de bases teóricas e epistemológicas presentes em uma formação pelos profissionais da educação, considerando a dificuldade da grande maioria dos maestros para compreender os processos biopsicossociológicos do conhecimento humano presentes em os atos de ensinar, aprender e conhecer, e considerando a compreensão de que a reforma do pensamento e do conhecimento mediada por educação exige um mapa ontológico, epistemológico, metodológico mais amplo, e que a ausência deste mapa constitui não somente uma grave debilidade nos sistemas de ensinança, sino uma grande barreira para materializar e pôr em prática efetivamente as reformas pretendidas, ou seja, as reformas epistemológicas, metodológicas, éticas e políticas, e que é necessário revisar os marcos científicos da produção do conhecimento escolar e acadêmico, ao mesmo tempo enfrentar os diferentes tipos de resistências que permeiam o pensamento hegemônico das instâncias universitárias e escolares, resistência às ideias que fundamentam a reforma do pensamento, do conhecimento e da educação, a dificuldade que tem de reconhecer a complexidade humana e o papel da corporeidade em o processo de construção do conhecimento, a dificuldade que tem de caminhar, e assim com que esses maestros caminhem, pela disciplinaridade, a transdisciplinaridade, e ao mesmo tempo cultivem o estado poético da existência. Entendemos que os cursos de formação de professores, tanto de formação inicial como continuada, urgentemente atendam às necessidades de profundização pelas bases epistemológicas, metodológicas da prática docente, como uma condição fundamental para uma melhor e maior compreensão dos mecanismos funcionais do pensamento, do conhecimento e da ação humana, como também para a viabilização da pretendida reforma do pensamento e da reforma da educação para a família. E, nesse sentido, aproveitamos a oportunidade para solicitar apoio da Unesco e de suas estruturas e, no sentido de priorizar em suas políticas, programas e projetos educativos, a visão e o contenido propositivo presente na obra de Gramsci. Ao mesmo tempo, recomendamos e apoiamos a criação de uma rede de cooperação interinstitucional e internacional capaz de levar adiante estratégias intensivas de formação de educadores mediante o desenvolvimento compartido de projetos de investigação, formação e inovação baseados em la complexidade e em la transdisciplinaridade, em os demais princípios que inspiram os documentos para o pensamento do Sul e os sete saberes da educação do futuro, ajudando assim a preparação do professorado para uma nova política de civilização. Graças.
Il faudrait systématiser quelques notions sur la formation du corps enseignant. Bien évidemment, il faudrait évoquer le manque de base épistémologique parmi ces enseignants, qui les empêche d'ailleurs de connaître les aspects bio, psycho et sociologiques de la connaissance. Il faudrait changer tout cela, bien évidemment, et puis que cela se transforme en réforme nécessaire pour le changement de paradigme que j'évoquais tout à l'heure. Cela nous servira également à faire face au discours hégémonique dans l'enseignement, qui provoque une grande difficulté pour reconnaître la complexité humaine. Et donc, cela devra passer par aussi bien des cours de formation initiale que continue pour répondre à ce besoin d'apprentissage des bases pour le corps enseignant. Cela nous permettra également au corps enseignants de mieux comprendre les mécanismes de la pensée et de sa complexité. Et à ce propos, je lance ici un appel à l'UNESCO pour que la priorité soit donnée dans les programmes et projets éducatifs à ce changement de paradigme, à cette conception de la formation. Nous soutenons et encourageons la création d'un réseau de coopération internationale et interdisciplinaire pour mettre en place des stratégies de formation pour le lien de nos corps enseignants, fondée bien évidemment sur toute la littérature concernant la pensée du Sud et des sept savoirs nécessaires pour le changement de paradigme de demain. Merci beaucoup de votre attention.
Para que seamos una especie unida, pues tenemos que buscar la comprensión, porque la comprensión genera la empatía, la comprensión perdona, la comprensión integra, de tal manera que la postulado de moral va a significar una especie de raya, ¿no? De divisoria entre lo que hasta ahora somos y lo que debemos de ser con mucha urgencia y postergablemente. Este proceso debe comenzar lo antes posible, ¿no? Y por eso nos propone la ética, que va a estar ligada a esas nuevas concepciones de lo que somos todos y cada uno de nosotros. Así que quiero decirles que para mí, tanto los siete saberes y fundamentalmente enseñar para vivir, es a la vez, es simultáneamente una autobiografía, un testimonio de vida, una filosofía política, una filosofía de la educación, una filosofía también antropológica, porque está explicando al hombre desde una nueva dimensión. Y por eso considero que los que estamos incorporando como nuestra esta prédica de Edgar Morin, pues no solo debemos de estudiar sus libros, sino de llevar a la práctica todos sus postulados. Y compromete no solo al ser humano, ¿no?, sino a las instituciones. Pero si el ser humano es el centro de todo, el ser humano también es el gobernante, es el administrador, pues cambiando el ser humano podrá sintonizarse todo para que arribemos a través de la educación a esta nueva humanidad y a este nuevo mundo y a esta nueva etapa en que lograremos ser y lograr la identidad telúrica y la patria planetaria. Así que en el Perú, con nuestro instituto, tratamos de aplicar en nuestra realidad un programa para los Andes centrales de crianza y otro de saberes culturales con una población de la selva peruana. Y naturalmente tenemos los proyectos de seguir aplicando toda esta forma de pensar, de sentir, de obrar, que nos llevará a una nueva etapa para la humanidad y para el mundo. Gracias.
Le demain est enseigné pour vivre, sans un témoignage
intégrer la pensée de Elias Morin et la mettre en pratique le plus tôt possible. Cela concerne non seulement les êtres humains, mais aussi les institutions, pour atteindre cette nouvelle étape dans notre histoire, à savoir la patrie planétaire. Au Pérou, à ce propos, nous avons mis en place plusieurs programmes pour tenter d'appliquer cette pensée complexe. Nous avons un programme notamment sur la partie centrale des Andes et un autre dans la forêt péruvienne. Et j'espère que nous atteindrons bientôt cette nouvelle étape de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup.
Maintenant, nous allons écouter Carlos Jesús Delgado sur le fait d'être éduqué à partir de la pensée complexe. Et cette intervention donc, sera faite par Carlos Jesús Delgado, qui est docteur en philosophie et professeur de l'Université de la Havane depuis 2000 et qui a enseigné dans beaucoup de pays d'Amérique latine.
Dependencia de las políticas nacionales con respecto a organismos internacionales
que están desconectados de las realidades de comunitarias de vida. A eso hay que prestarle atención. Tenemos fuertes tendencias globales que promueven hoy una racionalidad estrecha en el sector educativo. Eso se promueve entre docentes, entre estudiantes y entre familias. Muchas veces lo que la familia quiere es precisamente que su hijo reciba una instrucción racionalizada de la manera más estrecha posible. Por tanto, esos factores tenemos que tomarlos en consideración porque conspiran todo el tiempo contra el trabajo que podamos realizar a favor de un pensamiento completo y de una reforma educativa. Tenemos la oleada bien reconocida y ampliamente criticada por Morán de sumisión creciente al mercado. Tenemos la banalización de la política social y de la vida social y de la política. Y si esos son elementos todos que están de un lado como constreñimientos, si no los atendemos, se convertirán en obstáculos insuperables. Por eso, mi atención en estos aspectos. Si los trabajamos, no serán obstáculos, son restricciones con las cuales podemos movernos y podemos hacer la tarea. Por eso, el gran interés que tiene la obra de Morán y la aceptación entre los maestros puede entonces potenciarse con el trabajo que realicemos. Hay muchos contenimientos, no los voy a mencionar todos, pero podría mencionar al menos 7 que son muy importantes. Por lo general, el maestro llega creyendo que conoce la obra de Jean Morán cuando ha leído quizás los 7 saberes. Eso es un gravísimo problema, porque no se pueden entender los 7 saberes si no se ha trabajado la obra anterior de Morán. Por tanto, hay que trabajar en esa dirección de profundidad. Hay la persistencia de un enfoque muy estrecho de acercamiento al pensamiento complejo como si bastara con muy pocas lecturas e incluso con lecturas sesgadas. A veces no se ha leído a Morán, sino se ha leído a personas que hemos trabajado con la obra de Morán, que al final somos intérpretes de alguna manera, somos divulgadores de alguna manera, pero no se ha leído siquiera Morán. Hay desviaciones anticientíficas. Muchas veces hablar de pensamiento complejo, hablar de transdisciplina, significa pensar que todo vale, que puede ser lo mismo un misticismo, una religión, puede ser un punto de vista de cualquier naturaleza y que pueda incluirse en determinado tipo de diálogo. Estas son cuestiones que gravitan sobre los maestros. Hay fracasos fundamentales de los estudios previos, porque hay estudios de formación de maestros que conducen a un maestro de asignatura, a un maestro que sea capaz de repetir, no que sea capaz de crear. Hay fracasos que están, de estudios previos que están relacionados con tendencias actuales del mundo de la informatización, donde, por ejemplo, se están promoviendo prácticas muy negativas como la del plagio o como la del copia y pega de manera indiscriminada, y a veces se encuentra uno, el maestro, que ha copiado y pegado y que no es capaz de reflexionar sobre el problema ético en el cual está incluido. Esas son realidades con las cuales tenemos que trabajar, y hay una que creo que es muy importante, que es la falta de contextualización del pensamiento complejo con otras expresiones del pensamiento contemporáneo. Esto no quiere decir que no se haya hecho nada. Se ha hecho muchísimo por muchos colectivos que están hoy aquí representados, la mayoría de ellos. Por ejemplo, la idea del diálogo con la ciencia de la complejidad, la distinción que ha hecho Morán entre complejidad restringida y generalizada, es una buena estrategia de trabajo con los maestros. La atención a contextualizar y a buscar conocimiento pertinente es una buena estrategia que se ha utilizado mucho. Cavar en las bases culturales también es una estrategia importante que se ha venido utilizando y ha dado muy buenos resultados. De alguna manera, también ha sido una buena estrategia trabajar en la selección de los estudiantes. Pero aquí hay un gran riesgo, porque no se puede hacer la reforma educativa sobre la base de una élite de personas muy bien preparadas. Hay que trabajar con todos. Por tanto, por muchas restricciones que haya, por muchos constreñimientos que haya, necesitamos trabajar con todos esos maestros para que la reforma sea posible. No podemos esperar a que tengamos un grupo de elegidos que conozcamos el pensamiento completo, porque no vamos a estar en todas las escuelas y perdería la pertinencia en el pensamiento completo. Yo quiero finalmente
llamar la atención sobre una estrategia que se ha utilizado poco o se ha utilizado parcialmente y que creo que es muy prometedora. El pensamiento complejo no está solo en la educación en América Latina. Hay otras teorías educativas que comparten con el pensamiento complejo los ideales de racionalidad no clásica, bases epistemológicas comunes, y que hoy tienen una difusión en América Latina. Por tanto, una muy buena estrategia sería dialogar con esas otras teorías. Una ya ha sido aquí mencionada, que es la pedagogía crítica de Paulo Freire. Me podría detener en bases epistemológicas, por lo menos hay siete muy importantes de comunidad con el pensamiento complejo, pero creo que no hay tiempo para este nivel de detalle. Y la otra es la bioética global del oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter, que no es la bioética biomédica reconocida o conocida habitualmente en nuestros medios. Son concepciones no clásicas, teorías no clásicas. Y con las teorías no clásicas se puede dialogar porque son aliados potenciales para trabajar un pensamiento complejo. De hecho, hay aquí también un elemento de política. Si sumamos todos los educadores que en América Latina están incluidos por Morán, por la bioética global y por Freire, tenemos la mayoría absoluta de los educadores de América Latina. Por tanto, es un elemento también estratégico para la formación de una comunidad. Finalmente, yo haría tres conclusiones. La primera, necesitamos hacer el pensamiento complejo accesible, necesitamos formar en la investigación y necesitamos formar comunidad. Esa es la primera conclusión. Segunda, tenemos que ser conscientes de las limitaciones para que no se conviertan en obstáculos. Y tercera, el diálogo con otras teorías que se basan en los ideales no clásicos es fundamental para que la reforma avance. Muchas gracias.
Un autre problématique que je soulèverais, c'est le fait que
aussi bien les professeurs que les familles que les élèves, sont très souvent demandeurs d'un enseignement très rationalisé, justement. Donc cela représente des obstacles à la mise en application de la réforme éducative à travers la pensée complexe. D'autres problèmes que nous rencontrons dans notre pays et dans d'autres aussi, c'est la banalisation de la vie sociale et de la politique. Donc je pense qu'il faut vraiment rester alerte et veiller à tout cela si nous voulons mettre en place cette nouvelle idée de l'enseignement. Des contraintes auxquelles nous heurtons dans notre pays, par exemple les professeurs souvent croient connaître très bien l'œuvre de M. Morin en lisant uniquement l'essai de savoir. Donc ça pose bien évidemment un problème. L'approche de la pensée complexe en utilisant l'œuvre commentée sans réellement lire les différents écrits de M. Morin, c'est un autre problème. Et l'idée que la transdisciplinarité, dans cette idée de la transdisciplinarité, tout est possible, toute proposition est bienvenue et sera accueillie. Il y a un échec aussi sur le fait que la tendance actuelle à l'informatisation fait que beaucoup d'enseignants, malheureusement, tombent dans le piège du copier-coller sur Wikipédia, etc., et utilisent cela pour explorer ou pour mieux connaître la pensée de l'Edgar Morin, et sont incapables donc de réfléchir sur le problématique que cela pose, que cette pratique pose. Souvent, il existe également un manque de contexte, de contextualisation de la pensée complexe. Et je pense qu'il faut travailler sur la complexité restreinte et générale comme stratégie pour mettre en application ce nouveau paradigme. Il ne faut pas perdre de vue non plus les aspects culturels, car ils sont essentiels. Et je pense qu'il faudrait éviter de faire une sélection des professeurs connaisseurs de l'œuvre d'Edgar Morin, parce qu'on tomberait très vite dans la création d'une élite enseignante. Quelques stratégies à Cuba. La pensée complexe n'est pas seule à Cuba, il existe d'ailleurs, il existe d'autres théories éducatives qui partagent les mêmes bases épistémologiques que la pensée complexe. Et donc je pense qu'il faudrait établir un dialogue avec ces autres initiatives ou théories éducatives. Je pense par exemple à la pédagogie critique de M. Ray ou encore à le postulat non classique d'un auteur américain concernant la bioéthique globale. Donc, ces théories non classiques sont les alliés de la pensée complexe. Du point de vue politique à Cuba, la pensée de M. Morin est assez répandue, donc cela pourrait être un atout pour sa mise en place. Pour résumer, en conclusion, je vais reprendre en quelques phrases ce que j'ai déjà mentionné. Il faut tout d'abord rendre accessible la pensée complexe, former les enseignants à la recherche, former le corps enseignant correctement, être conscient des contraintes dont je parlais tout à l'heure et établir un véritable dialogue avec ces nouvelles théories éducatives. Merci.
Maestro Edgar Morin pour nous
assemblée ici à l'UNESCO, mais aussi à la Commission nationale de l'UNESCO, l'Association pour la pensée des textes, notamment la Nelson Vallejo. Je vais parler en français pour éviter la souffrance et la vigilance de notre rapporteur. Je ne sais pas dire l'autre. Je voudrais aussi remercier l'ambassade de la France à Montevideo qui nous a dit avec les lumières pour être ici avec nous. Je vais commencer avec une idée d'Edgar quand il dit dans la méthode 5 l'être humain porte en soi un principe d'incertitude qui représente les délits de sa liberté. C'est très intéressant de profondir cette idée dans le domaine de l'éducation et de notre vie quotidienne. Nous assistons de plus en plus, je vais lire directement les textes, nous assistons de plus en plus à la demande d'une culture plus sûre dans des environnements différents de la vie quotidienne. Et la prolifération des tueurs, des cartes de tarot, au prophète d'autres devant autoproclamés, les cas en Amérique latine, le développement est exponentiel de ce type de littérature, jusqu'à ce que nous puissions caractériser comme l'époque d'or des compagnies d'assurance, pour certains prospectivistes extrêmes, la recherche passionnée de l'éternité. Dans n'importe quel cas, la sécurité et ses corollaires, les grandes certitudes, les hypervalorisations du tangible et du quantifiable, exilent du doute comme méthode, s'est converti en un facteur protagoniste de notre vie quotidienne. À cela s'ajoute la paradigme interprétatif dominante fondée sur le rationalisme et la notion d'évolution linéaire et cumulative. Ce système d'idées, de type positiviste net, est exprimé très efficacement par Comte, quand il dit l'amour pour principe et l'autre pour base, le progrès pour but. Ordre et progrès, donc, célèbre formule exprimée depuis les rapports des puissances économiques de la planète jusqu'au sein des classes du 19e siècle qui aujourd'hui survit encore. Depuis cette perspective, l'incertitude est perçue avec une véritable peur, comme un risque, une menace, antichambre du chaos et pourquoi pas de la propre destruction ou du fait. C'est pour cette raison que son application devient maintenant une sorte de stratégie commerciale et politique d'usage courant dans les marchés et la campagne, en référence à la dénominée FUD en anglais, Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute. Par ailleurs, l'incertitude de perception angoissante n'est lieu pas de la modernité, bien qu'elle ouvre une nouvelle force aux configurations dans certains différents développements technoscientifiques, avec des conséquences inexorables pour le destin global et la vie quotidienne. En effet, la connaissance scientifique comme réponse classique à l'incertitude de l'univers et du temps a généré à la fois une plus grande confiance en nos possibilités et, paradoxe apparent, une plus grande conviction à propos des limites gigantesques de notre savoir et de nos dangers. Les fantasmes ancestraux de l'espèce humaine, compagnons de millénaires de voyage, sont aujourd'hui confrontés à d'autres outils et modèles de prévision informatisés à travers des superordinateurs. Les techniques vont varier autant que la perception du risque associée à l'ignorance sur le dernier. Depuis sa vie culturelle qui fracture ce qui est en assemblage, l'homo sapiens s'est voit mis en échec par le modèle S. Et si l'incertitude continue d'être la fille méprisée de l'histoire elle-même, vêtue de fatalité accablante, au lieu d'être réintégrée dans la vie quotidienne comme une future à construire et tisser dans l'assemblage sapiens d'elle comme une utopie. Essayons alors une autre forme pour ressentir l'incertitude. Essayons
une autre manière de voir qui n'est indéfinie pas avec la peur et la doute, comme la certitude du désastre inéluctable. Dans la vie quotidienne, le sentiment que l'on éprouve d'expérience d'incertitude avec la densité menaçante de la théologie classique, incertitude, doute, peur, tournant en visible de cette manière d'autres perspectives et d'autres ouvertures de l'incertain et de l'imprévisible. Son potentiel de création, d'innovation, de rupture avec la détermination et la tendance statistique. Le scénario qui s'ouvre est celui de l'autonomie dans l'interdépendance, avec une grande implication de l'être humain comme constructeur de ce futur possible. Durant presque un quart de siècle, j'ai exercé la profession de psychologue clinique. 25 ans, en écoutant des cas, des sujets, des vies, d'histoire, dans divers dispositifs psychothérapeutiques. L'expérience compilée et systématisée m'a permis d'apprécier le potentiel énorme des incidences conservatrices ou transformatrices que la perception de l'incertitude, qui a la perception de l'incertitude dans le quotidien des gens et des organisations. À mettre en question les systèmes de connaissances et d'interprétation, il était fréquent de constater que les éventuelles menaces que peut amener le futur ne résident pas dans l'incertitude en elle-même, sinon dans les erreurs et les illusions de ces mêmes systèmes interprétatifs et justificatifs. En d'autres termes, les problèmes n'étaient pas dans l'ignorance du futur, ni même l'ignorance comme limite, mais c'était les dangers qui nichaient dans une vision limitée, illusoire et erronée de la connaissance de base. Au sein de notre pratique clinique, ce que nous avons plusieurs fois observé est que, face à l'état des choses, les êtres humains optent, depuis une attitude située dans un paradigme simplificateur, pour des réponses telles quelles. On essaie de réduire l'imprévu à travers une planification rigide et toujours insuffisante. On produit un repli individualiste face à la sensation de perte de contrôle sur l'autre, singulière ou généralisée. On voit la confiance basique tellement ébranlée qu'elle ne peut pas influencer ce qui va venir. On consolide des sentiments de nostalgie pour un passé idéalisé. On augmente la bureaucratisation et les vides de sens de pratiques quotidiennes. On renforce la disjonction comme principe opératif. La relation autonomie-dépendance se réduit à l'un ou l'autre des épaules. Les boucles offrent des sortes d'organisation, génèrent la confusion et le repli, etc. Et finalement, on fortifie la pensée manichéenne et l'irruption de réponses violentes et intolérantes face aux crises. Pour cela, au début de ce siècle, dans ce moment, on sait savoir pour l'éducation du futur sollicité et édité par ces maisons de l'UNESCO, Edgar Morin mentionne un désir. Il dit, s'il peut y avoir un projet de base au 21e siècle, c'est pas trop difficile pour moi, ce serait que les hommes et femmes ne soient pas les jouets en conscience non seulement de leurs idées, mais de leurs propres mensonges à eux-mêmes. C'est un devoir capital de l'éducation qui est d'armer chacun dans les combats vitaux pour la lucidité. Ce que nous avons partagé dans ces tables rondes. On trouve là une sollicitude pour notre système éducatif, la nécessité de réformes où école et université n'enseignent pas seulement une connaissance, mais aussi, et c'est fondamental, la connaissance de la connaissance. Ces faiblesses, ces erreurs, ces illusions, même en sachant que tout est partiel et provisoire. Je vais presque définir. Cependant, même si le dire a fait un esprit rationnel, ceci est stimulant. Il s'agit de l'aventure d'apprendre à vivre, contextualiser et affronter les risques et les incertitudes en étant mieux équipés en sachant que nous voulons. Bien que quelques mythes prévalent, de toutes les formes, il existe actuellement des meilleures conditions pour affronter l'incertitude du futur à travers les énormes avancées qui font les systèmes de science, de technologie et d'innovation. Il manque cependant encore quelques composantes stratégiques et déterminantes dans ces cadres. Dans une perspective que maintient, qui de toute façon apporte, avec lui n'est pas inéluctable et qu'il reste encore à construire. Ils sont très, très opposants à renforcer les fondements éthiques du pilotage politique, scientifique et économique au niveau global et local, et promouvoir activement la gestion sociale et les connaissances, ils doivent éduquer l'incertitude. Éduquer pour l'incertitude, comme l'enseignait Carrel, la connaissance et la connaissance. Dans la même idée, dans la même idée, je vais partager cette idée d'une professeure autrichienne. Elle s'appelle chercheur Helga Novotny, qui affirme après affronter l'incertitude constitue l'une des ressources culturelles les plus précieuses d'une société. Il dit aussi l'incertitude vient avec une promesse. Cela pourrait être notre façon. Si le futur est incertitude, l'incertitude n'est pas obscurité. Nous pouvons présager des scénarios possibles avec la conscience et les limites, les armes de la connaissance et l'intelligence de la stratégie. Penser depuis la complexité, valorisant son lien de temps, de brume et de couleur, nous empêche de réduire notre conception du futur. Cela nous alerte des risques de l'action, mais nous évite à l'action. Cela nous propose d'accepter les incertitudes et même la promesse d'affronter ces dangers. Cela nous aide à construire la dialogique entre les délires et l'utopie, l'électropie et la rationalité du plan, entre les structures du programme et la dynamique de la stratégie. Cela nous invite à conjuguer les temps du futur, associant sans confondre et distinguant sans divorcer notre mémoire d'hier avec la décision d'aujourd'hui, la protection de demain, dans son précipité toujours défini au présent. Enfin, à la fin, je dis, penser l'incertitude depuis la complexité est une stratégie de futur, conservatrice et changeante, intellectuellement planifiée et avec certitude patiente. Merci. Agir, et certainement en donnant d'ailleurs plus et mieux la parole aux jeunes.
d'une formation pour pouvoir accompagner les enfants. Cette formation qui peut venir de l'extérieur, mais qui peut venir aussi d'eux-mêmes. On a parlé de l'auto-formation, de l'auto-apprentissage par les enseignants. Comment fait-on ? On change forcément aussi les programmes, puisque on ne peut pas continuer à enseigner un savoir fragmenté dans un univers complexe. Voilà, merci et j'espère que vous